Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Le ton monte entre la Russie et l'Ukraine depuis l'arraisonnement de 3 navires militaires ukrainiens dimanche dernier dans la mer d'Azov. Le président Porochenko a décidé de restreindre l'accès à son territoire aux hommes russes âgés de 16 à 60 ans et il demande le soutien de l'OTAN face à une menace d'invasion. La loi martiale, elle, est appliquée dans 10 régions du pays, mais elle reste virtuelle, comme a pu le constater à Kharkiv dans le nord-est Sébastien Gobert.
Au poste frontière de Roptivka, tout semble normal. Pas de troupes, pas de chars d'assaut, pas de nouvelles fortifications qui s'ajoutent aux travaux de défense de 2014. La porte-parole des gardes frontières, Oksana Ivanets.
Le service de garde frontière du nord-est de l'Ukraine a été placé en état d'alerte, mais cela ne change pas notre mode de gestion de la frontière avec la Fédération de Russie.
Derrière elle, le territoire russe, à une dizaine de mètres à peine. Les deux pays se livrent une guerre qui ne dit pas son nom depuis 4 ans. Et désormais, le président ukrainien prétend que Moscou se prépare à une intervention terrestre de grande ampleur. La loi martiale est donc d'abord dirigée contre la Russie et ses ressortissants. Oksana Ivanets.
À l'aéroport international de Kiev, 76 citoyens russes ont été jusqu'à présent interdits d'entrer sur le territoire.
Les autorités de Kiev étudient d'ailleurs comment interdire à tous les citoyens russes l'accès à l'Ukraine. Ce serait l'une des conséquences les plus concrètes de la loi martiale. Au sud de la frontière, la vie suit son cours comme à l'accoutumée. La seconde ville du pays, Kharkiv, se trouve à une trentaine de kilomètres à peine. En 2014, des mouvements pro-russes s'y agitaient, ce qui avait failli faire basculer la ville dans la guerre. Aujourd'hui, il est facile de gagner la métropole depuis Roptivka. Aucun barrage routier ne vient ralentir le trafic. Dans le centre-ville, pas d'affiches placardées sur la crise, pas de blindés dans les rues, pas de couvre-feu. Natalia Zanietchka rentre chez elle de son travail, comme tous les jours.
Pour l'instant, nous espérons que notre existence ne sera pas bouleversée, au moins dans un futur proche. Que ce soit les transports, les commerces, on sait qu'ils peuvent fermer la gare ou l'aéroport du jour au lendemain. Mais on espère qu'on n'en arrivera pas là.
Ce détachement contraste avec l'activité médiatique et politique de Petro Poroshenko. Le président tente depuis quelques jours de justifier l'introduction de la loi martiale, qu'il s'était refusé à utiliser, même aux heures les plus critiques de la guerre. Entouré d'une foule de journalistes, il s'est affiché en uniforme militaire sur une base de son armée, au nord de Kiev. Dans une de ses interviews accordées au magazine allemand Bild, il assure que Vladimir Poutine veut annexer une nouvelle partie de l'Ukraine. Et auprès de journalistes ukrainiens, il insiste sur l'utilité de la loi martiale.
Elle me servira si nous sommes agressés pour que je puisse organiser la défense du pays en quelques minutes. La loi martiale montre aussi à nos ennemis qu'ils paieront un lourd tribut s'ils décident de nous attaquer. Je veux que ce soit une douche froide pour ceux qui penseraient à attaquer l'Ukraine.
Les preuves d'une intervention russe imminente ne sont pourtant pas vraiment évidentes. Et beaucoup de ses détracteurs le soupçonnent d'une simple manœuvre politicienne avant l'élection présidentielle de mars 2019. Peu importe les rumeurs, à Kharkiv, les nationalistes sont sur la brèche. Ils organisent déjà leur propre mobilisation et forment une cinquantaine de volontaires. Vladislav Sobolievski est l'un des responsables régionaux du régiment ultra-radical Azov.
Nous nous souvenons bien du début de la guerre en 2014. Nous devons former nos citoyens pour défendre notre pays. Ainsi, nous formerons la première ligne de défense dans la prochaine guerre.
Entre menaces réelles et récupération politique, inquiétude et mobilisation nationaliste, les contours de la loi martiale peinent à être définis. Elle reste un symptôme indéniable d'un pays qui vit son cinquième hiver de guerre.
La misère que vous nous offrez dans la vie, c'est comme un soleil, une journée d'été, la France va se réveiller.
L'autre actualité en Europe, certes moins martiale, c'est le mouvement des Gilets jaunes en France. Le gouvernement tente d'éteindre leur colère en multipliant les rencontres depuis mardi dernier. Avant l'appel à la manifestation, samedi, lancé une nouvelle fois sur les Champs-Élysées. Des mesures drastiques ont d'ailleurs été prises pour que seuls les piétons puissent défiler demain sur la plus belle avenue du monde, éviter ainsi les violences du week-end dernier. Les revendications, elles sont multiples, outre la suppression de la taxation sur le carburant, l'augmentation du SMIC ou la démission d'Emmanuel Macron pour certains. Les Gilets jaunes réclament plus de démocratie directe, des référendums, comme le pratiquent nos voisins suisses. On appelle cela des votations. Il y en avait encore le week-end dernier. Un système unique et envié à l'étranger, mais qui a aussi ses limites. Katia Michel.
Merci.
Un coup de tampon, une enveloppe glissée dans l'urne, le geste n'a rien d'exceptionnel puisque les électeurs suisses votent 4 à 5 fois par an sur tous les sujets de société. En Suisse, rien ne se décide sans l'aval du peuple. Dimanche dernier, Stéphane s'est d'ailleurs rendu aux urnes pour répondre à la question assez insolite. Acceptez-vous qu'une compensation financière soit accordée aux paysans qui n'écornent pas leurs vaches ? Stéphane s'y oppose et ce droit au chapitre, il y tient beaucoup.
C'est chouette de pouvoir s'impliquer à notre échelle, puis de se poser des questions sur la société, plutôt que d'être systématiquement en opposition à ce que fait le gouvernement qu'on a élu. On nous interroge régulièrement, et du coup c'est un sentiment de démocratie qui semble fonctionner pas si mal.
En Suisse, chaque électeur ou chaque parti peut demander qu'une question soit soumise à référendum. Pour cela, il suffit de réunir un certain nombre de signatures. Les Suisses ont récemment accepté une loi permettant aux compagnies d'assurance d'engager des détectives privés en cas de soupçon de fraude. Ils ont également refusé l'augmentation de la taxe autoroute pour les automobilistes et la mise en place d'un salaire minimum. Dans le canton d'Appenzell, au nord-est, les citoyens ont également voté pour interdire la randonnée tout nu. On vote donc absolument sur tout. À titre de comparaison, la France n'a organisé que 9 référendums depuis 1958. En Suisse, sur la même période, il y en a eu plus de 400. Avec son système de votation, la Suisse est souvent considérée comme un modèle de démocratie. Un avis partagé par Jérôme, qui sort justement du bureau de vote.
Ça peut être un modèle aussi, par exemple, on pense notamment à l'Europe, à l'Union européenne et ce genre de choses, où ces derniers temps, on a pu remarquer qu'il y a peut-être une grande distance entre les institutions de l'Union européenne et le peuple. Peut-être que l'Europe pourrait s'en inspirer, on s'en sort quand même pas trop mal, et que c'est peut-être... Une des raisons là-dedans, ce sera le système politique qu'on a en Suisse.
Une démocratie directe qui trouve aussi parfois ses limites, surtout lorsque les sujets sont trop pointus, pense Caroline.
Ça peut donner des oppositions pour plein de choses aussi, et puis c'est pas toujours un bien pour faire avancer les choses. Le peuple doit pouvoir s'exprimer sur une généralité, sur un but ou une ligne, mais pas trop dans le détail.
Certains référendums, comme l'interdiction des minarets, l'expulsion des criminels étrangers, la limitation de l'immigration, ont également apporté de l'eau au moulin des détracteurs du système qui estiment que cette démocratie directe peut conduire à des dérives xénophobes. Certaines décisions du peuple ont également de lourdes conséquences sur le plan des relations internationales. Le 9 février 2014, les Suisses ont voté pour une limitation de l'immigration. Une décision qui va à l'encontre des accords bilatéraux entre la Suisse et Bruxelles concernant la libre circulation des personnes. La Suisse doit donc régulièrement jouer les équilibristes entre volonté populaire et engagements internationaux. Ce n'est donc pas toujours simple d'appliquer à la lettre la définition soufflée par Abraham Lincoln. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
La contestation sociale met aussi en lumière des territoires français très enclavés et de fait la grande dépendance d'une partie de la population à la voiture. Une dépendance criante dans les zones rurales qui souffrent du manque de transport public. La situation était semblable il y a quelques années en Allemagne, mais après les nombreuses fermetures de lignes ferroviaires régionales, le pays a fait marche arrière avec la réouverture de plusieurs centaines de kilomètres de petites lignes. Julien Méchaussy nous appelle de Berlin.
Pas assez rentable, trop peu de voyageurs, les petites lignes régionales ont pendant longtemps eu mauvaise réputation. Dans un pays qui compte de nombreuses villes grandes et moyennes, les zones rurales ont souffert du développement des lignes à grande vitesse. Mais avec la réforme ferroviaire au milieu des années 90 et l'ouverture à la concurrence, des prestataires privés ont flairé le bon filon. Portés par les importantes aides publiques, des lenders, ils n'ont pas hésité à remettre en état plus de 600 km de petites lignes et plusieurs centaines de gares. Le français Transdev fait ainsi partie de ces entreprises privées prêtes à miser sur ces lignes rurales et périurbaines, comme dans la grande banlieue de Stuttgart, dans le sud de l'Allemagne, avec la Strohgäubahn, une ligne d'une vingtaine de kilomètres qui traverse forêts et champs. Ouverte il y a 3 ans, le succès est au rendez-vous, augmentation de la fréquentation de 30% par rapport aux anciennes lignes de bus et 4000 passagers par jour très satisfaits de ce service. Comme cette jeune étudiante en route pour l'université.
Sans cette ligne, je devrais reprendre la voiture. C'est plus cher et moins pratique avec les embouteillages. Il faudrait que je me lève beaucoup plus tôt pour aller à l'université et mes temps de trajet s'allongeraient énormément.
Avec des trains toutes les demi-heures, de 5h du matin à minuit et 7 jours sur 7, cette ligne a permis de désenclaver la région. Et un ticket à seulement 2,50€, un prix modeste rendu possible par les plus de 200 millions d'euros de subventions injectées chaque année par le Land de Bade-Wurtemberg pour faire fonctionner ces petites lignes.
Les Français, on aura le bol, ils déjeunent avec un air aigri, un goût pour leur portefeuille quand on voit la hausse des prix. Tout augmente sauf les salaires, l'ouvrier à bout de souffle, c'est la descente aux enfers, en roue libre, écartez-vous.
Bonjour Ingrid Terwatt.
Bonjour Catherine Roland.
Alors cette semaine, c'est avec vous que nous allons détailler les articles que Courrier International a sélectionnés dans la presse européenne. Et pour commencer, l'actualité française qui est dominée par les gilets jaunes, on vient d'en parler, commentée aussi dans la presse européenne, Ingrid.
Vous avez raison, toute la presse européenne s'est justement penchée sur le phénomène pour le décrire, analyser, mais aussi pour le comprendre, et c'est pas facile. À Londres, le grand quotidien The Times écrit que Macron semble, je le cite, déstabilisé par la vitesse avec laquelle un mouvement de protestation spontanée, partant de la base à cause de l'augmentation du carburant, s'est transformé en déferlement de mécontentement. À Londres, toujours, Will Hutton, qui est chroniqueur pour The Observer, parle du mouvement des Gilets jaunes comme, je le cite, d'un cri venu de la base, un rappel à l'ordre adressé à l'impérial président Macron, et qu'il ferait bien justement d'écouter. Il remarque aussi, je le cite, qu'il n'est pas normal que les Français soient obligés de descendre massivement dans la rue pour que leur gouvernement comprenne l'erreur que représente une hausse des taxes sur les carburants. Alors partant de ce constat, que doit faire Emmanuel Macron d'après la presse européenne ? Alors justement, à Madrid, le quotidien El Mundo explique à ses lecteurs qu'Emmanuel Macron doit être soit Thatcher, soit Hollande. Et c'est là, selon le journal, l'éternel dilemme des présidents français. La tentation face à la rue et aux mauvais sondages de remiser dans les tiroirs les réformes qu'ils savent pourtant nécessaires. Alors en Allemagne, on observe aussi le phénomène, mais en s'inquiétant pour les conséquences à plus long terme, notamment avec les élections européennes qui sont prévues en juin prochain. La Süddeutsche Zeitung, par exemple, prévient que le mouvement des Gilets jaunes pourrait rapidement s'essouffler, mais les gens feront entendre leur colère dans les urnes. Marine Le Pen, l'adversaire d'extrême droite la plus acharnée de Macron, pourrait lui infliger un grave revers.
Alors Ingrid, un autre pays, autre sujet d'inquiétude, mais que se passe-t-il en ce moment à Barcelone précisément ?
Ah là là, Catherine, la ville traverse une crise d'insécurité d'après El Mundo. Les files d'attente devant les commissariats ne cessent de s'allonger. Et entre janvier et août, pour vous donner une idée, les délits ont augmenté de 19%, en particulier pour ce qui concerne les vols. Pour comprendre la gravité du chiffre, il faut comparer avec Madrid. Dans la capitale espagnole, l'augmentation, donc qui était de 19% à Barcelone, n'a été que de 1%. Alors tout ça entretient une crise politique entre l'opposition et la maire de gauche, Ada Colau, alors que la ville se prépare à des élections sous haute tension en mai prochain. Du coup, la municipalité fait tout pour minimiser la crise, d'une part, et d'autre part, pour mener des actions coup de poing et frapper les esprits. Alors par exemple, il y a une grande opération fin octobre contre ce qu'on appelle les narcopisos, les narco-appartements, c'est-à-dire des appartements insalubres squattés par des trafiquants ou des consommateurs de drogue. Mais il n'y a pas que la drogue et les vols comme problème. Les Barcelonais se plaignent aussi beaucoup des vendeurs de rue et de leurs contrefaçons, des altercations que ça provoque, et plus généralement, du tourisme de masse et de l'ensemble de ses effets pervers.
Voilà Ingrid, alors on termine avec la COP24 hein, qui va se tenir dans une Pologne pas très écologique. Et c'est donc la conférence annuelle pour le climat, Ingrid.
Oui, avec cette COP24, ça sera la troisième fois en 10 ans que la Pologne organise ce genre de conférence. Alors effectivement, on pourrait se dire, ça serait logique, que le pays est super écolo. Mais pas du tout, et c'est ce que souligne l'hebdomadaire local Tygodnik Powszechny à Cracovie. Le gouvernement vient justement de publier un document de stratégie environnementale à mettre en place d'ici 2030. Et les différents projets qu'il évoque sont jugés par le journal soit inefficaces, soit complètement incohérents. Bref, ce qui manque, c'est une vision politique dans un pays où la source d'énergie de base est encore le charbon et où chaque année, 46 000 personnes, c'est pas rien, meurent de façon précoce à cause du smog. Pour l'hebdomadaire polonais, donc, il serait possible de convaincre les gens de la nécessité de se soucier du climat en leur montrant qu'une politique en ce sens permettrait aussi d'améliorer la qualité de l'air et, in fine, leur état de santé.
Eh oui, on va en parler sur RFI dès lundi prochain. Merci Ingrid Terwatt, un des articles évidemment à lire dans Courrier International. À bientôt Ingrid.
À bientôt Catherine.
Musique. Avec nous, Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Alors, vous célébrez aujourd'hui le Melting Pot musical avec un artiste espagnol.
Ah oui, avec une compilation qui vient cet automne retracer le parcours haut en couleur du chanteur espagnol Gecko Turner. Le disque s'intitule Sonicuete et regroupe des chansons enregistrées ces 15 dernières années au fil d'une carrière solo très riche. Avant cela, dans les années 90, Gecko Turner s'était illustré au sein d'un groupe de rock, The Animal Crackers, avant de former Perro Flauta, où il revisitait notamment le reggae et la samba avec des musiciens brésiliens. En solo, il brouille les pistes, en empruntant à la soul, au R&B ou encore à l'afrobeat, bref, un melting pot généreux où sont conviés des musiciens nigériens, guinéens ou cubains et auxquels cette compilation rend aujourd'hui parfaitement justice. La preuve avec ce titre doux et entêtant, Mbira Bira.
Hace mucha calor. Ay, cómo le gusta. Ya fuma su flajo mirando el río desde la casa. Mamá.
Bira Bira, des sonorités tropicales en ce temps hivernal à Paris, et c'est avec l'espagnol Gecko Turner. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation. Bien sûr, il y avait Françoise Grelot. N'oubliez pas, lundi et mardi, Accent se met au diapason de la COP24. Reportage en Pologne, en Espagne, en Serbie et en Belgique notamment.